Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, il est 7h.
Plan d'organisation, il faudra qu'il soit simple, que les gens puissent se faire vacciner au plus près, si possible chez leur médecin, sinon sur leur lieu de travail.
Alors que la course au vaccin s'accélère, interdiction de rater le coche, la France est en train de se préparer. Quel pourrait être le calendrier, les modalités pratiques de cette vaccination? On fait le point dès le début de ce journal.
C'est la mesure controversée de la semaine, l'article 24 de la loi Sécurité Globale. Le gouvernement veut pénaliser la diffusion d'images malveillantes de policiers. La mesure a été adoptée hier, mais elle sera contestée dans la rue cet après-midi.
Et puis voilà de quoi occuper vos enfants, au moins pour deux bonnes heures à la maison. La vente de sapins de Noël est désormais autorisée malgré le confinement. Vente autorisée et décoration fortement conseillée.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est la lumière au bout du tunnel. L'espoir d'un vaccin contre le Covid est de plus en plus sérieux. Une première demande d'autorisation a donc été déposée hier.
Demande formulée par le géant Pfizer, associé à l'allemand BioNTech. Ils demandent à commercialiser leur vaccin dès que possible aux États-Unis. Tout cela pourrait aller très vite. Et dans cette course, il faut se préparer, anticiper. Anne Le Gall, quel pourrait être le calendrier en France ?
Eh bien, en France, les premières injections pourraient avoir lieu début 2021. La France a précommandé 90 millions de doses. À ce stade, la Haute Autorité de Santé considère que les personnes prioritaires seront les professionnels de santé ainsi que les personnes âgées ou fragiles. Concernant l'organisation logistique, au lieu des centres de vaccination collectifs, comme au moment de la lutte contre le H1N1 en 2009, la Haute Autorité de Santé recommande plutôt que les médecins généralistes soient au cœur du dispositif. Le professeur Daniel Floret est le vice-président du comité technique des vaccinations.
Le plan d'organisation, il faudra qu'il soit simple, que les gens puissent se faire vacciner au plus près, si possible chez leur médecin, sinon sur leur lieu de travail. Les pharmaciens vaccinent contre la grippe, peut-être qu'ils peuvent vacciner.
Mais cette organisation dépendra aussi du conditionnement des vaccins, en gros flacons ou en unidose, que pourraient utiliser les généralistes, ainsi que de leur stockage dans des supercongélateurs ou en simple frigo. L'avis définitif de la Haute Autorité de Santé sur l'organisation devrait être connu mi-décembre.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, cet espoir d'un vaccin arrive alors que les chiffres de l'épidémie sont en train de ralentir en France. Il y a moins de patients en réanimation et moins de décès.
Le pic a sans doute été franchi, selon les autorités sanitaires. Après 3 semaines de confinement, les Français désormais attendent un allègement des restrictions avant les fêtes.
Et c'est Emmanuel Macron qui en donnera les grandes lignes mardi soir à 20h. Le chef de l'État évoquera les vacances de Noël, mais également la réouverture des commerces qui devrait intervenir le 28 novembre, donc samedi prochain.
Ce qui est certain, c'est que la politique de tests va se poursuivre, notamment dans les lycées.
Dès lundi, des tests antigéniques seront organisés dans plusieurs lycées franciliens, uniquement dans des établissements volontaires. Les précisions avec Virginie Riva.
Les lycées ont beau pour moitié être passés en distanciel, le virus circule encore. Hier, les derniers chiffres officiels faisaient état de 3 lycées fermés sur 4200, 13 870 élèves contaminés en tout et plus de 2000 personnels de l'éducation nationale. Ces tests déployés dès lundi en Ile-de-France s'adressent donc aux lycéens comme aux personnels volontaires pour faire du dépistage massif, comme l'explique l'épidémiologiste Martin Blacher.
Plus que faire du testé tracé isolé, c'est de faire du dépistage, c'est-à-dire de tester un ensemble de gens quel que soit le fait qu'ils aient été contacts ou pas contacts. Et comme aujourd'hui, on est dans une phase de confinement et que le seul endroit qui n'est pas soumis à confinement, ce sont les collèges et les lycées, on suppose que c'est là où il y a une contamination résiduelle qui est la plus importante. C'est donc pour ça qu'on déploie en priorité ces campagnes de dépistage par test antigénique dans les lycées.
L'idée sera donc de détecter les cas de contamination chez les lycéens comme le personnel. Chez les jeunes, cela peut permettre de déceler la maladie alors qu'il y a beaucoup de cas asymptomatiques, tout simplement pour mettre un frein à la propagation du virus dans les lycées.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Et cette crise sanitaire, elle touche tout le monde à tous les échelons et en particulier les agriculteurs. Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, sera là à 8h15, juste après un gros dossier sur l'agriculture dans le journal de 8h. Pendant ce temps, Jonathan Daval sera fixé d'ici ce soir. Les assises de la Haute-Saône rendront leur verdict après une semaine de procès.
Lui qui a avoué avoir tué sa femme risque la prison à vie. Les réquisitions de l'avocat général auront lieu ce matin avant une dernière plaidoirie de la défense et donc le verdict en fin de journée.
Et la journaliste Aude Barietti, auteure de l'affaire Daval, sera avec nous dans ce studio d'ici 35 minutes.
À Paris, les juges de la cour d'assises spéciale se penchent depuis lundi sur l'attentat du Thalys et les motivations du principal accusé. En 2015, 2015, le terroriste avait pris le train avec une kalachnikov et une arme de poing. Des soldats américains présents dans le train avaient évité le drame en maîtrisant l'assaillant. L'un d'entre eux, Alex Skarlatos, a témoigné devant les juges.
Je pense que notre entraînement militaire a pu jouer quand on regarde ce qui s'est passé avec le recul. Surtout avec la manière dont on a réagi et géré les armes. Mais notre première réaction de vouloir l'arrêter, c'est juste dû au fait qu'on était sur la même longueur d'onde, sans même avoir besoin de se parler. Je me vois pas comme un héros, on a juste fait ce qu'on avait à faire pour survivre. Mais Spencer est certainement un héros, car il est le premier à s'être levé. Nous, on a été impliqués juste parce qu'il avait besoin de nous. Si on avait été dans un café, assis à côté d'une issue de secours et qu'un terroriste était entré, l'histoire aurait peut-être été différente, je ne sais pas. Au final, on a juste fait ce qu'il fallait faire pour survivre.
Alex Skarlatos, ancien militaire américain, au micro Europe 1 de Gladys Laffitte.
Ah, c'est l'article qui crée la polémique depuis plusieurs jours dans le pays. L'article 24 sur la sécurité globale a été adopté hier par les députés.
Il prévoit de sanctionner la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre, et même si le gouvernement assure dans un nouvel amendement que la liberté d'informer sera maintenue, eh bien le texte continue de susciter des remous. Claudia Bertram.
Durant de longues heures dans l'hémicycle, Gérald Darmanin défend l'article 24 qu'il qualifie de plus équilibré après l'amendement du gouvernement pour répondre à la fronde.
Il me paraît désormais correspondre à la fois à l'équilibre réaffirmé entre la liberté d'informer, la liberté des journalistes de faire leur métier de la façon dont ils le souhaitent, et la protection des forces de l'ordre.
Mais cela est loin de convaincre sur les bancs de la gauche et particulièrement des insoumis qui ferraillent dur avec le ministre de l'Intérieur comme Éric Coquerel.
Cet article 24, c'est celui de la honte. Votre article 24, même avec l'amendement sur la liberté de la presse, est condamné par l'ONU, par la Défenseur des droits, par les associations de droits de l'homme et l'immense majorité des syndicats de journalistes.
Et au sein même de la majorité, le geste d'apaisement du gouvernement ne suffit pas. Certains députés modem, comme Erwan Balanant, estiment que la loi permet déjà de punir l'utilisation délictueuse d'images.
Tout est à peu près inscrit dans les codes pour protéger les forces de l'ordre et pour protéger d'ailleurs d'autres professions. Nous sommes en train de créer un délit d'intention.
Certains marcheurs au départ réticents sont quant à eux satisfaits de l'évolution de l'article. Article largement adopté donc, avec 146 voix pour et 24 contre.
Claudia Bertram, plusieurs syndicats de journalistes toujours opposés au texte appellent à manifester. Des rassemblements sont prévus à Paris et à Marseille, notamment en début d'après-midi. Appellent également plusieurs associations de défense des libertés publiques. Écoutez l'avocat Arié Halimi, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme.
C'est un combat politique, c'est un combat pour la liberté de la presse. J'entends déjà d'ailleurs des voix politiques dire que Darmanin est lâché par le président de la République et par le Premier ministre. Tout est encore possible dans ce combat politique et on le mènera jusqu'au bout parce que ce sont des valeurs fortes, ce sont les valeurs essentielles, celles de nos libertés, celles de tous les journalistes aussi, puisque aujourd'hui, et ce fut déjà le cas pendant le précédent rassemblement, des journalistes ont été repoussés, interpellés, placés en garde à vue, frappés uniquement parce qu'ils faisaient leur travail. Et c'est justement ce que nous essayons d'éviter en empêchant ce texte de passer.
Maître Arié Halimi au micro de Jeanne Bergaoui.
Ça sera le thème de l'édito de Catherine Ney tout à l'heure à 8h40. Le compte à rebours est bel et bien lancé. Le 1er janvier prochain, le Brexit entrera en application.
La période de transition prendra fin. D'ici là, les négociations se poursuivent entre Londres et l'Union européenne pour éviter un no deal. La question de la pêche notamment n'est toujours pas réglée. Il y a les négociations et puis sur le terrain, les adaptations qui commencent pour être prêts le jour J, le jour où les contrôles aux frontières seront restaurés. Reportage au Havre de Jean-Rémy Baudot.
Dans son poste de contrôle, un douanier scanne un passeport.
C'est un logiciel qui nous permettra d'optimiser la qualité du contrôle. Directement, il nous passe au fichier des personnes recherchées.
Sur son écran, les voyants passent au vert.
Tout est en règle, il n'y a pas d'inquiétude, on peut partir.
Aujourd'hui, c'est une répétition, mais à partir du 1er janvier, des milliers de passagers devront être contrôlés chaque jour en provenance de Grande-Bretagne. Le Havre se prépare, de nouvelles infrastructures, notamment douanières, 1,7 million d'euros d'investissement l'an dernier. Le maire de la ville, Édouard Philippe, espère que les autres ports de la région joueront aussi le jeu.
En France, bien entendu, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, il est bien évident que si une qualité de contrôle différente était mise en œuvre sur l'ensemble des points de contact entre le Royaume-Uni et la façade européenne, notre activité ou la sécurité s'en trouverait affectée.
L'inquiétude de l'ancien Premier ministre, une nouvelle concurrence post-Brexit. Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, tente de rassurer.
Ça n'est pas théorique, il faut aller sur place et discuter concrètement avec nos partenaires européens pour s'assurer qu'il n'y a pas une forme de dumping, si je puis dire, malvenu entre les pays européens. On doit réussir ce Brexit ensemble.
Et l'on comprend que réussir ce Brexit sera surtout éviter que les pays de l'Union européenne ne se déchirent entre eux. Le Havre, Jean-Rémy Baudeau, Europe 1.
Nous lui devons notre liberté et notre honneur. Emmanuel Macron a salué hier la mémoire de Daniel Cordier.
Ancien compagnon de la Libération, à qui un hommage national sera rendu. Daniel Cordier est mort à 100 ans, lui qui s'était engagé dans la résistance, qui était devenu également le secrétaire de Jean Moulin. Les deux hommes, leurs deux destins sont aujourd'hui liés, selon Vladimir Trouplin, le conservateur du musée de l'Ordre de la Libération.
On ne peut pas dissocier son image de celle de Jean Moulin. D'abord parce que, effectivement, dans la résistance, ils ont travaillé le plus étroitement possible pendant une dizaine de mois jusqu'à l'arrestation de Jean Moulin. Et puis l'autre raison, c'est que après cette grande carrière de galeriste et d'amateur d'art qu'a fait Daniel Cordier après la guerre, il est devenu l'historien biographe de Jean Moulin. Et il a fait un travail de recherche tout à fait exceptionnel en s'appuyant sur une masse considérable d'archives. Et un des combats de la vie de Daniel Cordier a été aussi de faire, d'écrire l'histoire de son patron, c'est-à-dire de Jean Moulin.
Vladimir Trouplin, le conservateur du musée de l'Ordre de la Libération avec Hélène Terzian. Il ne reste aujourd'hui qu'un seul compagnon encore en vie. Il s'agit d'Hubert Germain qui a fêté ses 100 ans le 6 août dernier.
Et qui notamment a été rencontré par Lord d'Autriche il y a peu de temps. Et on termine ce journal, Marguerite, avec une bonne nouvelle pour les fleuristes et pour les enfants.
Eh oui, les sapins de Noël, ils sont arrivés. Les ventes ont été autorisées par le gouvernement. Vous pourrez donc installer votre sapin et même le décorer, donc malgré le confinement. Reportage à Paris de Diane Berger.
Ça, ce sont des petits sapins, ces petits nobilis. Ça dure très très bien et ça sèche tranquillement.
Jennifer présente les différents modèles de sapins à une cliente. Elle vient de les recevoir et de les mettre en vente. Un soulagement pour la jeune fleuriste après un automne difficile.
Normalement, on commence la saison des sapins à partir du premier dimanche de l'Avent. Mais là, cette année, on a commencé une semaine avant. Les gens s'arrêtent énormément pour les sapins, regardent. Et puis voilà, peut-être pas acheter aujourd'hui, mais ça leur donne envie de...
Donner envie pour relancer l'activité de son magasin, c'est aussi ce qu'espère Amandine en installant les sapins devant sa vitrine.
Les sapins qu'on peut mettre dehors, c'est vraiment super cool. On mise là-dessus pour justement rattraper un petit peu le chiffre qui a dégringolé ces derniers temps.
D'autant plus que les ventes de sapins, c'est pour beaucoup de fleuristes l'un des pics de fréquentation de l'année, après la Saint-Valentin et la fête des mères, explique Jeanne.
On est au contact d'une clientèle qui passe que à moment-là. Donc c'est vrai que de la perdre, ça serait dommage. Et puis en plus, ça reste un chiffre d'affaires non négligeable.
Jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires annuel pendant les années normales. Alors cette année, la période est cruciale pour la survie de son établissement.
Un reportage de Diane Berger.
Vous allez faire un sapin
Oh bah allez, je vais faire un sapin cette année.
Avec des boules, des guirlandes.
Je vais essayer de faire ça joliment.
Des trucs lumineux.
Je vous enverrai une photo. Sapins.
Ah oui, ah oui. Puis on va la mettre sur les réseaux sociaux.
Ce sera peut-être pas pour ce week-end.
Le sapin de Marguerite.
Enfin, petit mot de football pour terminer avec deux résultats de Ligue 1. Le PSG s'est incliné face à Monaco 3-2 et Bordeaux a battu Rennes 1-0. Puis notez que si les Parisiens ont perdu, les Parisiennes, elles, ont réussi un exploit au Parc des Princes. Elles ont battu les ultra favorites lyonnaises.
Merci Marguerite Lefebvre. Elle a tellement ri qu'elle en a de la buée à cause du masque sur ses lunettes. C'est ça le problème du masque. Et on revient tout à l'heure, 8h. N'oubliez pas, un grand dossier dans le journal de 8h sur justement la filière agricole totalement impactée par la crise sanitaire.